Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici à Washington, la police a tiré des gaz lacrymogènes dimanche soir devant la Maison-Blanche pour disperser une manifestation contre les violences policières et le racisme, alors que de violents affrontements avaient lieu dans Washington, selon des journalistes de l'AFP sur place. Une foule de manifestants s'était rassemblée devant la résidence du président américain Donald Trump en scandant des slogans, en allumant des feux et en brandissant des pancartes dans la capitale américaine soumise au couvre-feu de 23h dimanche à 6h lundi, a précisé la maire Muriel Bowser sur Twitter. Elle a ajouté avoir ordonné le déploiement de la garde nationale en renfort de la police. Selon le New York Times, le président Trump a été mené la veille par le Secret Service lors d'une manifestation similaire devant sa résidence, à l'abri dans un bunker souterrain. Des couvre-feux sont en vigueur dans d'autres grandes villes américaines. Des milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées dimanche dans plusieurs villes des États-Unis au lendemain d'une nuit d'émeute pour exiger que justice se soit rendue après la mort de George Floyd, un Américain africain-américain de 46 ans décédé après son interpellation par la police à Minneapolis, dans le nord des États-Unis. Le président Trump a annoncé que son administration va inscrire sur sa liste des organisations terroristes la mouvance d'extrême gauche Antifa pour antifasciste. Il a attribué à cette mouvance et à d'autres extrémistes radicaux les débordements qui ont fait dégénérer en émeute les manifestations pacifiques pour protester contre la mort de Floyd. Le déploiement des forces de l'ordre n'a pas empêché certains débordements et des pilleurs se sont attaqués, par exemple hier, à des magasins d'un centre commercial UP de Santa Monica, en Californie. L'émotion a largement dépassé les frontières des États-Unis au Canada. Après Toronto la veille, des milliers de personnes ont défilé dimanche à Montréal pour dénoncer le racisme et les violences policières lors d'une manifestation qui a dégénéré en affrontements et en pillage au centre-ville dans la soirée. À Londres, des centaines de personnes ont manifesté hier en scandant « Pas de justice, pas de paix », l'un des slogans phares des rassemblements américains, et des footballeurs en Europe ont tenu à faire part de leur solidarité avec le mouvement. Manifestation de solidarité aussi aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Nous reviendrons plus en détail dans un instant sur les manifestations aux États-Unis avec Eric Manirakiza et Bagassi Koura. En attendant quelques nouvelles en bref, la pandémie de COVID-19 a fait au moins 370 261 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan de l'AFP hier. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec plus de 104 000 décès pour plus de 1 778 000 cas. Suivent le Royaume-Uni, l'Italie, le Brésil et la France. Au Burkina Faso, une attaque contre un convoi humanitaire par des groupes armés terroristes a fait au moins 10 morts, 5 civils et 5 gendarmes, au nord de Barsalogho. C'était samedi dans le nord du pays, selon un communiqué du gouvernement publié dimanche. Une autre attaque meurtrière a eu lieu dans l'est, au marché de Kopiengbiga. Nous y reviendrons dans un instant. En Côte d'Ivoire, un désaccord sur la construction ou non d'une nouvelle mosquée a dégénéré samedi en violence entre musulmans qui ont fait un mort à Yorobodi, village du centre-est où un couvre-feu a été instauré selon des sources concordantes. En République démocratique du Congo, Trésor Mputu Kankonde a été arrêté samedi après 3 ans de recherche a pris de manche l'AFP auprès du parquet militaire congolais. Il s'agit de l'un des principaux responsables présumés de l'assassinat en mars 2017 de 2 experts et enquêteurs des Nations Unies, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise d'origine chilienne Zaida Catalan, dans la région centrale du Kasaï. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. La suite de nos informations, retour sur les manifestations contre le racisme qui ont dégénéré en émeute à travers les États-Unis après la mort d'un Africain-Américain il y a une semaine lors de son interpellation musclée par la police. Des milliers de policiers et soldats patrouillaient dimanche dans les grandes villes américaines au lendemain d'une nouvelle nuit de protestation. Eric Manirakiza nous fait le point de la situation hier en début de soirée.
La colère qui s'est emparée du pays après la mort lundi à Minneapolis d'un homme noir de 46 ans, George Floyd, d'émeute d'un policier blanc, a provoqué des émeutes destructrices accompagnées de pillages et incendies volontaires dans cette grande ville du nord du pays. Les violences ont gagné samedi soir New York, Philadelphie, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Angeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago, ou encore la capitale Washington. Les gouverneurs des États concernés ont fait appel à la garde nationale et pour certains, décrété un couvre-feu. Des routes ont été coupées, des voitures et des commerces incendiés et les forces de l'ordre, déployées en grand nombre, ont répliqué par des gaz lacrymogènes et dans certains cas, des balles en caoutchouc. Des journalistes ont été pris à partie. Le président Donald Trump a promis de stopper la violence collective et dénoncer les agissements de gauchistes radicaux et notamment la mouvance radicale Antifa, antifasciste. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré que Trump devrait unifier le pays et pas attiser les flammes. De son côté, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a condamné les violences. Manifester contre une telle brutalité est un droit et une nécessité. Mettre le feu à des villes et la destruction gratuite ne l'est pas, a-t-il affirmé. Quelques 5000 soldats de la garde nationale ont été déployés dans 15 États et à Washington, et 2000 autres se tiennent prêts à intervenir si nécessaire, a indiqué hier la garde nationale.
Le président Donald Trump a déclaré qu'il soutenait les manifestations pacifiques, mais il a aussi averti qu'il ne permettrait pas à la situation de sombrer davantage dans l'anarchie et le chaos. Le point avec Michel Joseph.
No justice, no peace.
Pas de justice, pas de paix. Poursuivez la police, scandent les manifestants. Les manifs ont éclaté à Minneapolis dans le Minnesota à la suite de la mort de George Floyd, un homme noir décédé le 25 mai après qu'un policier blanc a maintenu son genou pendant presque 8 minutes sur le cou de la victime. L'homme n'était pas armé et il était déjà menotté. Et sur la vidéo de cette arrestation musclée, on peut entendre Floyd crier « Je ne peux pas respirer ». Le policier blanc Derek Chauvin est en détention depuis vendredi, 4 jours après cette tragédie. Il est accusé de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire. Le président Donald Trump a qualifié la mort de Floyd de tragédie et il a demandé d'accélérer l'enquête.
We have peaceful protesters.
Nous avons des manifestants pacifiques et nous soutenons le droit des manifestants pacifiques. Nous ne pouvons pas permettre à une situation comme celle de Minneapolis de sombrer davantage dans l'anarchie et le chaos.
Dans un tweet vendredi qui a été qualifié par Twitter comme glorification de la violence, M. Trump a promis d'envoyer des militaires si nécessaire. Il a également déclaré « Lorsque le pillage commence, les tirs commencent ». Une expression utilisée dans les années 1960 par un chef de la police de Miami, Walter Hedley, pendant des émeutes raciales en Floride. Ces critiques accusent M. Trump d'alimenter les tensions raciales. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a reconnu les décennies d'angoisse et de peine de la communauté noire. Il a appelé à l'arrêt des pillages et des violences. Son appel n'a eu aucun effet, car comme une traînée de poudre, la colère s'est étendue à plusieurs villes américaines ce week-end. Un manifestant a été abattu à Denver, dans le Colorado. Et 7 personnes ont été tuées à Louisville, dans le Kentucky, où les manifestants réclament justice pour Breonna Taylor, une femme noire abattue par la police qui est entrée chez elle en mars dernier. Comme c'est aussi une année électorale, le présumé candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, déclare que le racisme profond est à l'origine de la mort de Floyd.
None of us can turn away. None of us can be silent.
Aucun de nous ne peut se détourner. Aucun de nous ne peut se taire. Pouvons-nous entendre les mots « je ne peux pas respirer » et ne faites rien?
Comme tout se passe pendant la pandémie de COVID-19, le nombre de manifestants et policiers qui étaient à proximité les uns des autres, ce week-end fait craindre aussi de nombreux cas de coronavirus dans le pays.
Sur place à Minneapolis, la journée de dimanche a été quelque peu calme grâce notamment au renfort des sécurités déployées dans la ville. Recueilli hier en fin d'après-midi à Minneapolis, deux témoignages. D'abord celui de Moussa Diawara, le responsable des Maliens de Minneapolis.
Je reste à la maison juste pour assainir l'environnement parce que je pense qu'il y a un groupe de white extremists qui s'appelle. Donc ils étaient mélangés avec les manifestants, c'était qui sont en train de commettre des crimes et puis il y a des gens qui sont venus d'autres states aussi pour envenimer la situation. Donc de ce fait, il y a les National Guard qui sont sortis pour demander aux gens de rester à la maison.
Est-ce que les gens suivent ces consignes-là? Les gens restent à la maison vraiment?
Malgré tout ça, les gens sont sortis hier. Les gens sont sortis, il y a eu des échafaudés, il y a eu beaucoup de gaz lacrymogène pour empêcher les gens. Mais bon, les gens étaient sortis. Mais la situation était sous contrôle hier.
Comme vous dites hier, c'est bien samedi.
Moussa Diawara, responsable des Maliens de Minneapolis. Maintenant, le témoignage d'Abdirahman Kain, un habitant d'origine djiboutienne. Il est propriétaire de restaurants dans la ville. Depuis samedi, il fournit gratuitement de la nourriture aux victimes des pillages et à ceux qui aident à nettoyer la ville.
La ville est calme depuis
samedi soir.
Il n'y a pas de problème. Les gens, ils ont commencé à déjà rétablir leur établissement.
Oui, et c'est dû au renfort d'agents de sécurité, notamment le National Guard.
Voilà, les National Guard ont bien rétabli la situation avec la police de la ville de Minneapolis.
Alors, on a aussi vu des images à la télévision de vandalisme, de voitures brûlées. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait vous-même sur place?
Oui, hier, nous avons donné plus de 1200 sandwichs aux gens qui travaillaient pour le nettoyage, pour le rétablissement, les gens qui, les victimes des incendies. Mm-hmm. Beaucoup de gens qui ont perdu leur business parce qu'ils ont été incendiés vendredi soir.
Oui. Alors, on dit qu'il y a beaucoup de out-of-staters, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas de Minnesota, qui sont venus à Minneapolis là-bas. Est-ce que vous avez fait le constat aussi?
Oui, ça c'est évident parce que quand vous voyez les numéros de matriculation sont des autres États, mm-hmm. Il paraît aussi qu'ils ont louer des hôtels aux environs de la ville. Tout est visible et aussi l'intelligence américaine a aussi annoncé qu'il y avait des gens qui ne sont pas de l'État, des organisations, des malfaiteurs comme les blancs de KKK. Tout ça, c'est ce qui a causé beaucoup de dommages, surtout les business des immigrants.
Parlez-nous des immigrants. Il y a une forte communauté djiboutienne à Minneapolis.
Surtout, la plus grande communauté ici, c'est la communauté somalienne. Et il y a aussi une grande communauté libérienne, mais ils ne sont pas parmi les victimes, les Libériens. Mais les Somaliens et les Mexicains et certains Djiboutiens business ont été très atteints.
Et pour l'instant, vos restaurants ne sont pas touchés, hein?
Mes restaurants, heureusement, ne sont pas touchés. Et on est en secours des victimes, des victimes des pillages, les gens qui nettoyaient. On a donné 1200 sandwichs.
Abdirahman Kain a été joint à Minneapolis par Bagassi Koura.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une trentaine de personnes ont été tuées samedi par des individus armés à Kopienbiga, près de Pama, dans l'est du Burkina Faso. Une source sécuritaire indique que c'était au cours d'une attaque attribuée à des groupes armés terroristes Bagassi Koura.
Les assaillants ont fait irruption dans le marché sur des motos et ont commencé à tirer, surtout sur les gens qui tentaient de fuir. Selon un habitant, un groupe a procédé à des fouilles de ceux qui étaient restés sur place, tandis qu'un autre groupe a poursuivi ceux qui ont fui. Un élu local de la province de Kompienga parle de plusieurs dizaines de morts, notamment des commerçants et des habitants de la localité. Cette attaque meurtrière survient après celle d'un convoi de commerçants qui a fait 15 morts vendredi dans le nord, à Lorum notamment, et a été également attribué à des groupes djihadistes. L'Est et le nord du Burkina Faso sont les régions les plus touchées du pays. Les forces de l'ordre du pays n'arrivent pas à enrayer la spirale des violences djihadistes. Malgré l'aide de forces étrangères, notamment de la France, ces exactions djihadistes ont fait plus de 900 morts et 860 000 déplacés depuis 5 ans.
En Somalie, au moins 10 personnes ont été tuées et 12 blessées dans l'explosion d'un engin explosif au passage d'un minibus dimanche près de Mogadiscio. Michel Joseph.
Le ministère somalien de l'Information indique que l'explosion a eu lieu dans la région de Lafol hier matin, ajoutant que les victimes se rendaient à un enterrement. Des témoins de cette explosion ont indiqué que le minibus avait été totalement détruit et ont décrit l'horreur de nombreux corps déchiquetés ou terriblement brûlés. Il y avait plus de 20 personnes dans le minibus et 10 ont été tuées sur le coup. Les autres gravement blessés ont été emmenés à l'hôpital. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'explosion meurtrière. Les Chebab, mouvement djihadiste affilié à Al-Qaïda, commettent régulièrement des attentats dans la capitale somalienne et ses environs, qui tuent souvent des civils.
La Minute Éco, Nani Talani.
L'économie de l'île Maurice devrait se contracter de 7,5% à 15% en 2020 en raison du coronavirus, qui a durement affecté les secteurs du tourisme, de la fabrication et des transports. Selon la Banque centrale, ces secteurs ainsi que l'information, les communications, l'administration et le commerce de gros et de stockage représentaient près de 40% du PIB. Par ailleurs, la pression sur les recettes en devises sera amplifiée par le manque à gagner dans les recettes d'exportation dans des secteurs tels que les textiles et la pêche. Le Parlement éthiopien a approuvé un budget supplémentaire de 1,43 milliard de dollars pour l'exercice se terminant en juillet, pour aider l'économie à contrer le coronavirus. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le budget supplémentaire sera financé par une combinaison de prêts extérieurs et intérieurs. Terminons par l'Afrique du Sud, où le groupe BATSA, British American Tobacco, a saisi la justice pour contester l'interdiction des ventes de tabac imposée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. BATSA détient 78% du marché sud-africain de la cigarette et a contribué à travers les taxes à hauteur de 670 millions d'euros au budget de l'État. Le recours du groupe a reçu le soutien d'autres producteurs, de vendeurs et d'associations de fumeurs qui affirment que l'interdiction nourrit le trafic des produits de contrebande.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Le coronavirus n'en finit pas de tourmenter le monde sportif.
Tout à fait. Et le président de cette fédération reste très prudent et attend aussi la décision des autorités béninoises. On écoute Ismaïl Onifaré.
Nous nous en tenons pour l'instant aux décisions de nos autorités locales qui n'ont pas encore pris des décisions dans le sens de lever les restrictions sur les activités sportives. Et également, et FIBA Monde et FIBA Afrique ont maintenu toutes les compétitions statutaires, mais seulement qu'ils les ont reportées dans la période du dernier trimestre de l'année.
Football, après la FIFA, la CAF va soutenir à son tour les fédérations et associations affiliées dans ce contexte de la pandémie de la COVID-19.
Oui, le comité d'urgence de l'instance dirigeante du foot africain a approuvé l'aide financière annoncée il y a quelques semaines. Ainsi, la CAF a prévu de sortir une enveloppe de 10,8 milliards de dollars US. Cette somme sera partagée entre les 54 fédérations et associations affiliées. Cette subvention est destinée à soutenir le football au niveau local. Pour ce faire, chaque fédération va recevoir une enveloppe de 118 millions de francs CFA.
Le Sénégal et la Guinée, Élisée, se mettent dans la même dynamique. Les différentes fédérations ont octroyé des subventions aux différents clubs.
Exactement, Idrissa. Au Sénégal, la fédération a déboursé la somme de 343 748 000 francs CFA pour le paiement des honoraires des arbitres et des subventions au club pour la saison 2019-2020. De son côté, la fédération équato-guinéenne a décidé d'apporter son soutien financier de 50 millions de francs CFA au club de football et de futsal. Ce montant est un premier appui en attendant le soutien promis par la FIFA pour permettre aux fédérations de faire face à la pandémie de coronavirus.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Niger se dote d'une loi sur l'interception de certaines communications émises par voie électronique. Le texte, adopté la semaine dernière par le Parlement, fait polémique. Organisation de défense des droits de l'homme et opposition politique le qualifiant de liberticide. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
L'opposition parlementaire a boycotté la plénière qui a examiné et adopté la dite loi qui, selon elle, ne sera pas au service de la nation mais de personne. Soumana Hassan, député du Modem FA Lumana.
En considérant la composition de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, on n'a pas l'impression que c'est pour la sécurité nationale, mais plutôt pour le confort de certains individus. Tenez bien, ne siège au sein de la commission proposée par l'exécutif aucun représentant de l'opposition, aucun représentant du barreau, aucun représentant des associations des droits de l'homme, aucun représentant de la société civile, aucun représentant des syndicats, c'est-à-dire aucun contre-pouvoir. Que mijote-t-il encore à quelques mois des élections générales pour avoir besoin d'une loi qui leur permette de tenir en laisse tous les Nigériens?
Chez les citoyens également, l'adoption d'une telle loi pose beaucoup d'interrogations.
Comment vous allez dire que vous allez intercepter les communications des citoyens? C'est vraiment ignoble ce que les députés là ont voté comme loi. Et je vous le jure que moi, ils ne sont plus mes députés à partir d'aujourd'hui.
Ça ne cause pas de problème si tu n'as rien à te reprocher. Ils n'ont qu'à intercepter pour tout le monde. Je pense que les gens qui craignent ça, c'est des malfaiteurs.
Devant les députés présents pour le vote, le ministre de la Justice a pourtant rappelé les types de communications qui ne sont pas concernés par les dites interceptions au regard de la nouvelle loi. Mourou Amadou.
La vie privée des gens n'est pas concernée. Si le ministre ou le premier ministre devait saisir le président de la République d'une requête d'autorisation d'écoute, il doit, dans sa lettre de saisine du président, justifier dûment la proposition faite au président de la République. Mais j'ai compris que dans ce pays, les ministres, le président, personne n'a confiance en eux. Vous craignez d'être écouté, eh bien vous l'étiez depuis et vous l'êtes encore. C'est maintenant que ça va être organisé.
Le gouvernement explique que la loi a été élaborée et adoptée dans le souci de concilier l'exercice de la liberté d'expression avec les impératifs de sécurité nationale dans un contexte de lutte contre le terrorisme, mais également l'urgence de légiférer dans un domaine aussi complexe. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Les étudiants qui doivent se rendre au Cameroun pour y étudier sont bloqués au Tchad depuis l'apparition du coronavirus. Ils ne peuvent pas retourner reprendre les classes en raison de la fermeture des frontières due à la pandémie. Les autorités camerounaises annoncent la reprise des cours pour ce 1er juin. De Niamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Par manque d'infrastructures universitaires et la perturbation quasi quotidienne des années académiques, des milliers de jeunes Tchadiens s'inscrivent dans des universités du Cameroun voisin pour leurs études supérieures. Avec la survenue de la pandémie, beaucoup sont rentrés au Tchad, mais les autorités camerounaises annoncent la reprise des activités académiques ce 1er juin alors que les frontières entre les deux pays restent fermées. Ceux qui ont tenté de contourner cette décision en voulant traverser par le fleuve ont failli être tirés dessus par les agents de sécurité.
Nous avons avons pris des décisions. Les frontières du Tchad sont fermées. À ceux qui traversent clandestinement, nous leur opposons la loi. Et donc, c'est clair.
Oumar Yahya Hissen, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Les étudiants ont mis sur pied un collectif qui a mené des démarches et obtenu des autorités en charge de la sécurité publique une autorisation de déplacement collectif pour repartir au Cameroun via le sud du Tchad. Pendant que le collectif organise les étudiants de N'Djamena pour un voyage paisible, c'est des trois provinces du Tchad, notamment Sar, Doba et Mundu, ont tenté d'entrer au Cameroun par Koutéré, mais ils ont été bloqués à la frontière, comme en témoigne un étudiant en VOA Afrique sous l'anonymat.
Nous sommes arrivés hier autour de 15h et jusqu'à la frontière camerounaise n'est pas ouverte. Seulement nous devons passer la nuit ici. Si bien maintenant nous nous trouverons tous les acteurs engagés.
Selon nos informations, la courbe de contamination de la pandémie va croissant au Tchad et que ces étudiants, même s'ils arrivent à traverser, ils seront mis en quarantaine. Blaise Ndadiri Ngarlédé, porte-parole du collectif des étudiants tchadiens au Cameroun, demande aux autorités médicales de prendre des dispositions pour éviter cette situation.
Nous avons en contact aux autorités tchadiennes qu'on peut accepter d'être en quarantaine. Il faudrait prendre simplement des mesures sécuritaires ici. Le ministère de la Santé doit s'investir pour que les étudiants ne soient pas vraiment dans cette stage-là. Comme nous avons déjà l'autorisation en main, ce qui est prioritaire, c'est nos études. C'est les autorités qu'on attend simplement leur aussi.
Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Oumar Yahya Hissen, le retour des étudiants tchadiens au Cameroun doit être géré diplomatiquement. Mais pour l'instant, dit-il, la priorité du gouvernement, c'est d'abord de maîtriser la chaîne de contamination à coronavirus.
Le Cameroun a fermé ses frontières. Nous avons aussi fermé le nôtre par rapport à cette pandémie-là pour éviter la chaîne de propagation.
Quelques 10 000 étudiants tchadiens au Cameroun sont concernés par cette impasse. Au fil des jours, beaucoup craignent de rater la suite de l'année académique. André Ikoduma Djingar Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Mali, plusieurs associations de la société civile et des politiques appellent le président Ibrahim Boubacar Keïta à démissionner. Une marche est d'ailleurs projetée dans ce sens ce 5 juin, accompagnée d'un meeting à la place de l'indépendance. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
La CEMAS, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko, le Front pour la sauvegarde de la démocratie et le mouvement Espoir Malikoura dénoncent une gouvernance chaotique et prédatrice du président Ibrahim Boubacar Keïta qu'ils appellent à la démission ainsi qu'à tout son régime. Cheikh Oumar Sissoko est coordinateur de Espoir Malikoura.
Nous ne voulons pas continuer avec le système politique, économique, social, culturel et environnemental qui nous régit aujourd'hui. Amener le peuple donc à pouvoir cogiter, réfléchir et mettre en place les institutions de la République qui vont nous amener les fondements républicains, les fondements démocratiques d'une République qui sont aujourd'hui constamment violés.
La coalition des trois mouvements a fait des sorties de propositions de crise. Il s'agit entre autres de la construction de l'armée, une priorisation de l'éducation et de la santé, la garantie de l'accès aux services sociaux de base et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Issa Kaoudjim, coordinateur de la CEMAS.
Regardez le nord, aujourd'hui il n'y a pas de sécurité, l'État n'existe pas, le centre c'est presque la guerre civile, le reste du pays il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, l'école est fermée, à Bamako il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité et même la justice qui devrait poursuivre les malfrats au col blanc, les délinquants financiers, tous ceux qui ont pillé la caisse de l'État aujourd'hui, on les a tous d'aller chez eux. Nous pensons que notre problème ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas la démocratie, notre problème c'est la mauvaise gouvernance, l'échec du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Les trois regroupements veulent un nouveau départ. Et un autre départ. C'est une manifestation monstre, mais pas de violence ni d'insultes selon Choguel Koukala Maïga, président du FSD.
Pour dire que nous voulons un nouveau départ pour le peuple malien. Nous voulons, à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un nouveau contrat politique, un nouveau contrat social entre le peuple malien et tous ceux qui exercent une partie de responsabilité, que ce soit les partis politiques, que ce soit les organisations de la société civile, qui fédèrent en leur sein, qui cristallisent les sentiments, les espoirs des Maliens sous quelque forme que ce soit.
Selon Clément Dambélé, le peuple du Mali est souverain. Si le Mali ne change pas, les Maliens vont périr. Ce 5 juin donc, c'est le Mali qu'ils vont défendre. Il est le président de la plateforme contre la corruption et le chômage.
Il faut comprendre que lorsque vous gardez le peuple dans la famille,
termine, vous lavez sa dignité. Cette dignité peut se retrouver parce que le Mali a sa dignité au fondamental, au fond de lui. Il s'agit de l'appeler aujourd'hui dans cette dignité. Ceux qui ont voté pour ce régime sortiront aussi pour dire nous avons pris conscience à partir de maintenant pour dire à ce régime trop c'est trop, stop. Et comme disait Ampateba, quand vous prenez les malhonnêtes pour des hommes vertueux et que le peuple vous demande d'arrêter, il faut avoir l'humilité et le courage d'arrêter. Et le peuple va demander le 5 juin à Ibrahim Boubacar d'arrêter.
Avant cette conférence de presse, le 26 mai dernier, les trois mouvements ont tenu une rencontre tripartite et ont convenu de l'unité d'action. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA.